Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle bien-être au travail. À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'entreprise libérée, que reste-t-il du management et des managers ? Le monde de l'entreprise connaît une série de transitions qui amènent tensions et contradictions. Le manager doit à la fois donner envie et mettre la pression, tout contrôler et favoriser l'initiative, mobiliser ses forces et s'adapter. Comment ramener de la cohérence dans l'incohérence tout en gardant son équilibre psychique? Dans son dernier livre « Le manager est un psy » paru aux éditions Erol et coécrit avec Jean-Luc Emery, Eric Albert apporte des clés de lecture pour le mieux-être des managers et ainsi éviter la surcharge mentale et les aider à prendre du recul. C'est avec la casquette d'entrepreneur que Blooming You est allé à la rencontre du psy et éditorialiste aux Échos, Eric Albert, pour mieux comprendre en 3 épisodes pourquoi et comment passer du mode pilote automatique au mode pilote conscient? Quels sont les nouveaux paradigmes du leadership? Et comment libérer la passion et le talent autour de soi? Bienvenue dans le 2e épisode de la série Le manager est un psy. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, je répète, hein, Eric, hein, vous êtes psychiatre, hein, le fondateur du cabinet de conseil USAID, coach de dirigeants et conseiller en stratégie managériale. Vous êtes aussi conférencier, éditorialiste aux Échos et auteur d'une douzaine de livres. Alors, on se voit aujourd'hui pour l'épisode 2, parce qu'il y a eu un épisode 1, sur pourquoi passer du pilote automatique au pilote conscient, qu'on vous invite à écouter. Et ce qui nous amène aujourd'hui à l'épisode 2, donc quels sont les nouveaux paradigmes du leadership? Du coup, ce qui m'intéresse aujourd'hui, Eric, et ce qui intéresse les auditeurs de ce podcast, c'est un, comment vous définiriez le leadership? Et pourquoi et comment on doit adresser l'émotion et l'humain dans l'entreprise aujourd'hui?
Alors, quand on parle de leadership, on parle de la capacité à entraîner. Donc, c'est cette capacité à susciter dans les équipes dont on est le leader, à la fois de la bonne émotion, alors on discutera de ce que c'est que la bonne émotion, et de les convaincre du sens de ce qu'on fait, et de leur donner envie d'avancer avec soi, d'aller plus loin, de se projeter dans un avenir commun. Donc le leader, c'est celui qui réunit autour de cet avenir commun, qui focalise tout le monde dans quelque chose qui est du registre de cet objectif qu'on va partager et dans lequel on va se retrouver, et qui fait en sorte que les acteurs ont cette énergie et contribuent par leur énergie à aller ensemble dans ce même sens. Ce qui a beaucoup changé peut-être par rapport au modèle à l'ancienne, c'est que d'une part, on est beaucoup moins dans des modèles top-down, on est beaucoup moins dans des modèles pyramidaux. Le leadership, ça a été très longtemps, on a pris d'ailleurs les grands leaders politiques comme modèle, des gens qui étaient des figures qui portaient à la fois un projet, qui étaient beaucoup plus intelligents que tout le monde, qui voyaient tout, qui décidaient tout, et qui étaient une espèce de génie derrière lesquels tout le monde se réunissait.
C'est des figures de guerre, d'ailleurs.
Souvent des figures de guerre, absolument. Je pense qu'on est de moins en moins sur ces modèles-là. Le leader, il a aujourd'hui certainement une fonction de faire en sorte que les choses se passent dans le sens de ce que je disais, de donner envie, de faciliter, mais ça va se faire non pas par son discours. Son discours va être important, mais pas du tout de la même façon. Ça va se faire par sa capacité à faire partager et faire en sorte que les acteurs eux-mêmes réfléchissent, contribuent, s'approprient et trouvent leur envie dans le fait de contribuer. Les modèles dans lesquels on est aujourd'hui sont des modèles où on ne dit pas aux gens ce qu'ils ont à faire. On partage un objectif commun et on fait réfléchir les gens sur comment ils vont le faire et de quelle façon est-ce qu'ils vont, ils vont réaliser ce vers quoi on va. Donc on est beaucoup plus dans des modèles dans lesquels la contribution des acteurs est fondamentale, et ce qui est nouveau dans le leadership d'aujourd'hui, à la fois il a ce côté inspirationnel, il porte sur lui quand même des regards, mais en même temps il doit être en permanence dans le fait de renvoyer dans la façon de travailler aux gens avec lesquels, les gens qui l'entraînent, cette réflexion, cette façon de partager ensemble, cette façon d'avancer ensemble, parce que plus aucun groupe d'individus n'attend de modèles très autoritaires qui partent par le haut.
Mais ça veut dire qu'on doit renoncer effectivement à poser Est-ce que ça veut dire que le manager doit renoncer à poser des objectifs, enfin en tout cas, oui, à être une certaine forme d'autorité?
Alors c'est une autorité de compétence, c'est pas une autorité de contrainte. Alors ça arrive qu'on soit dans la contrainte, mais c'est beaucoup beaucoup plus rare. Les modèles qui sont basés sur la contrainte sont des modèles dans lesquels plus vous êtes sur la contrainte, plus les acteurs que vous avez en face de vous en fait font les choses entre guillemets par la peur, et vous réduisez énormément du coup leur intelligence, leur capacité d'initiative, leur capacité de collaboration, parce que quand vous produisez de l'émotion négative chez les acteurs, eh bien cette émotion négative réduit leur capacité comportementale. C'est-à-dire que la caractéristique de l'émotion négative, c'est qu'elle vous restreint, alors que l'émotion positive vous ouvre et vous élargit l'éventail de vos capacités comportementales. Donc, on parle de cette autorité, si l'autorité consiste à utiliser son pouvoir pour la contrainte et la peur, ça marche dans certaines circonstances, mais ça réduit considérablement le potentiel. Et une des caractéristiques des modèles d'entreprise dans lesquels on est aujourd'hui, c'est que le potentiel des acteurs, et c'est-à-dire la capacité des acteurs à apporter de l'intelligence à partir de là où ils sont sur le terrain, est absolument essentielle dans la performance globale de l'entreprise. Sinon, on est obligé d'avoir des modèles qui sont pensés par le haut et exécutés par le bas. C'est des modèles bêtes. Ces modèles-là sont bêtes. Ils vont forcément mener à des business models qu'on appelle low cost, dans lesquels on va produire peu de valeur ajoutée et on va vendre, on va être dans une espèce d'hyper-productivisme et on va vendre pas cher des produits qu'on va essayer, qui seront simples et qu'on va faire en très grand nombre pour faire du low cost. Et dès qu'on veut être dans quelque chose qui est un tout petit peu plus élaboré, que ce soit en service ou en produit, qu'on veut qu'on ait de l'innovation, qu'on ait de la nouveauté, ça suppose que les gens collaborent, ça suppose que les gens osent des choses, c'est ce qu'on appelle le test and learn, tenter des choses, ça suppose que les gens travaillent de façon beaucoup plus ouverte. Et là, on a besoin de créer un environnement émotionnel positif. Alors donc, dans les nouveaux leaderships, le leader d'aujourd'hui, c'est là où il faut qu'il pense son organisation, son entreprise, l'intérieur de son entreprise, comme un individu. Parce qu'à la fin, ce qui constitue son organisation, c'est des individus. Un individu, il a besoin de trois niveaux. Il y a le niveau inspirationnel, c'est qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui fait que je trouve que ce que je fais fait du sens. Pourquoi cette entreprise est utile au monde? Et qu'est-ce qui aurait de moins si cette entreprise n'était pas là? En quoi est-ce que je contribue à quelque chose qui est un grand dessein, qui est autre chose que simplement enrichir mes actionnaires? Donc ça, on voit bien que toutes les entreprises d'aujourd'hui sont en quête de ça. Ce qu'on appelle la raison d'être. On voit bien que les entreprises se rendent compte que la dimension inspirationnelle est très importante. Ensuite, vous avez la dimension rationnelle. C'est comment dans la vie quotidienne, il y a de la cohérence entre ce qu'on me demande, les moyens que j'ai, les gens avec qui je travaille, comment est-ce que la vie quotidienne, il y a une simplicité des choses, dans la vie quotidienne qui fait que dans la rationalité de la vie quotidienne, je peux exécuter mon travail. Et puis, il y a une troisième dimension dont on vient de parler, qui est la dimension émotionnelle. C'est dans quel environnement émotionnel j'évolue. Et là, ça va être beaucoup le jeu relationnel entre les acteurs, l'attitude et l'état d'esprit de tout le monde. Parce que l'environnement émotionnel, il n'est pas seulement créé par le haut, il est créé par tout le monde.
Ouais.
Tout le monde peut mettre de la bonne humeur le matin en arrivant. Nous ici, chez YouSide, on a une jeune femme à l'accueil qui est extrêmement souriante et qui est très, très gaie. Et tous les matins, c'est un rayon de soleil extraordinaire pour tout le monde, et y compris pour moi qui ai créé l'entreprise. Je trouve ça merveilleux. Ça crée... c'est pas seulement ça, mais ça joue beaucoup. L'état d'esprit de chacun, le jeu relationnel, et puis la qualité de vie au travail, et puis le mode de management. Est-ce que je... Encore une fois, dans mon mode de management, quel type d'émotion je veux créer?
D'accord. Vous parliez tout à l'heure de la bonne émotion. J'ai entendu l'enthousiasme. Quel autre type d'émotion? Vous parlez de type d'émotion, donc il y a plusieurs types qu'on peut identifier.
Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a les émotions positives et les émotions négatives. D'accord. Donc, la peur, la rivalité, la méfiance vont être considérées comme des émotions négatives. Mm-hmm. L'envie, la satisfaction, le partage, l'audace vont être considérées comme des émotions positives. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on va catégoriser. Alors après, vous voyez, le rapport à la sécurité, que de temps en temps, il y ait une petite dose d'inquiétude peut aider à la créativité des acteurs par rapport à des modèles qui sont des modèles dans lesquels il n'y a aucun enjeu, tout le monde est archi-sécurisé, et dans lequel il manque un peu des petits éléments. Donc c'est des dosages qui sont compliqués, hein, qui dépendent des individus. Il y a des individus pour lesquels vous n'avez pas du tout besoin de jamais susciter l'inquiétude chez eux parce que c'est des hyper inquiets, et au contraire, il faut essayer en permanence de les rassurer. Puis il y a des individus qui sont pas du tout inquiets, qui sont dans une espèce d'hypersécurité. Et là, vous avez besoin de temps en temps de les mettre un peu, de les mettre un tout petit peu en déséquilibre, parce que ça les aide à bouger.
Bien, merci Eric, c'est une très belle transition pour le troisième épisode, hein, qui sera sur le manager, la voix de l'influence, comment libérer la passion et le talent. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du dernier livre d'Éric Albert et de Jean-Luc Emery, Le manager est un psy, aux éditions Erol. Je vous donne rendez-vous sur bloominyou.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite avec le troisième et dernier épisode de la série Le manager est un psy pour comprendre comment libérer la passion et le talent autour de soi. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !